14. 20h33. Je dois te laisser, ma chérie. Éteindre Skype était plus difficile encore que de raccrocher un téléphone. Qui oserait couper en premier la caméra? Faire le geste devant l'autre de se pencher pour remplacer l'absent par un écran noir. Jean-Loup attendit que Blandine s'en charge, comme pour lui faire porter le poids du silence, la responsabilité de la distance. Jean-Loup, instinctivement, rapprocha les cadeaux qu'il avait glissés sous la table basse pour que sa femme ne les repère pas à travers la webcam. Deux grands sacs remplis de produits haut de gamme de l'Occitane en Provence. Des soins du visage, de l'eau essentielle, des parfums d'ambiance. Blandine adorait les senteurs de lavande et d'angélique. Ils habitaient Strasbourg depuis près de 20 ans, mais elle avait toujours conservé cette nostalgie de leurs années passées à Marseille, du temps où ils travaillaient pour Vogelzug, du temps où ils voyageaient autour du monde, du temps où Jonathan n'était pas encore né. Depuis qu'il était employé par Solicaire, Jean-Loup n'avait presque jamais eu l'occasion de retourner à Marseille. Il s'arrangeait pour refuser au maximum les déplacements que sa fonction de directeur des ventes lui imposait. Il repoussait, déléguait, télécommuniquait. Mais cette fois, il n'avait pas pu échapper au congrès des représentants de premier rang. Alors, il reviendrait à Strasbourg, les valises chargées de cadeaux provençaux. Pour Jonathan, Jean-Loup avait choisi un petit avion miniature, un A380. Jonathan avait 21 ans. Jonathan adorait ce genre de jouet. Jonathan était trisomique 21. Avec Blandine, ils avaient hésité pendant de longues semaines à le garder. Blandine était contre l'avortement et toute sa famille, profondément catholique, faisait bloc derrière elle. Jean-Loup était pour, anticipant qu'avec un enfant handicapé, s'en serait terminé de leur vie de bobo-bobo, comme il le disait. Bourgeois bougeotte bohème. Deux amoureux, libres et sans attache. 20 ans plus tard, Jean-Loup n'arrivait même plus à se souvenir à quoi ressemblait sa vie d'avant, celle des hôtels et des soirées arrosées avec les collègues de Vogelzug. Jonathan l'avait métamorphosé. Comme si toute la misère du monde s'était concentrée dans ce petit bonhomme innocent de 50 kilos et que Jean-Loup en portait tout entière la responsabilité. Plus besoin de courir la planète à la poursuite d'un sens chimérique à sa vie. On avait besoin de lui chez lui. Chaque soir, tout simplement. Jonathan, c'était toute sa vie. Tout comme la vie de Jonathan se résumait à Blandine et lui. Jean-Loup resta encore de longues secondes à fixer l'écran noir, puis leva enfin les yeux. Le grand salon du Radisson Blu donnait directement sur la mer. C'était la seule touche d'originalité de cet hôtel au luxe froid et anonyme dans lequel il allait devoir dormir deux nuits. Il observa un instant le balai des bateaux sur le vieux port. Appeler, voir Blandine, parler à Jonathan, lui avait fait un bien fou. Une pause salutaire pour faire le plein de courage. Celui de ne pas se perdre. Il était passé si près de la plus grande connerie de sa vie. Son fils s'appellera Jonathan. Il est trisomique. Il vient juste de l'apprendre. Jean-Loup est gentil. Plus gentil que les autres. Plus doux. Plus tendre. Différent. Mais il paye comme les autres. Il en aime une autre comme les autres. Il se cache et me viole comme les autres. Il est plus fourbe. Plus lâche encore que les autres. Lui m'aime seulement parce que je ne le regarde pas. Parce que je ne pourrai jamais le reconnaître. À l'autre bout du salon, la fille en jupe étroite, chemisier sage et cheveux très noirs retenus en chignon, occupée à tremper ses lèvres dans la flûte de champagne, lui lança un sourire complice. Elle descendit de la chaise haute, attrapa une autre flûte, le seau à glace, et s'approcha d'une démarche assurée. Faline, forcément. Jolie, très jolie. Fine, racée, effrontée. Beaucoup moins timide que les messages qu'ils échangeaient depuis des semaines ne le laissaient présager. Faline était enceinte de 4 mois. On avait dépisté la trisomie 21 de son fœtus lors de sa 9e semaine de grossesse. Jean-Loup était président de l'Association française d'aide aux enfants trisomiques. T21. Fallin l'avait contacté sur sa messagerie personnelle. Ils avaient beaucoup échangé. Un petit jeu de séduction sans conséquence, jusqu'à ce que Fallin lui propose qu'ils se rencontrent. Enfin, en vrai. Ces deux nuits au Radisson Blu constituaient le seul déplacement de Jean-Loup depuis des mois. Il avait proposé à Fallin de le rejoindre, puis l'avait immédiatement regretté. Puis c'était raisonné. Il ne se passerait rien d'autre qu'un verre partagé. C'était seulement un test. Un test pour mieux prouver son amour pour Blandine. Pour éprouver la solidité du mur infranchissable qu'ils avaient construit tous les deux autour de Jonathan. Il s'emplit les narines de l'eau de toilette arlésienne d'Occitane. Il pouvait presque sentir la présence de Blandine. Le parfum de patchouli de Fallin couvrit les fragrances de Provence avec une violence qui lui déplut.
J'ai commandé une bouteille de champagne et de flûte, comme on se l'était promis.
Elle les posa sur la table et s'assit sur le fauteuil bas en face de lui, jambes croisées, talons hauts, cuisses satinées. Qu'est-ce qu'il lui avait pris d'inviter cette fille de 30 ans plus jeune que lui? Comment allait-il se débarrasser d'elle? À bien la regarder, elle n'était même pas vraiment jolie. Trop maquillée, trop sûre d'elle. Habituée sans doute à ce qu'une tenue un peu sexy, portée près du corps, suffise à faire ramper devant elle les gamins de son âge.
« Ça va ?» s'inquiéta Fallin.
« Ça va. »
Jean-Loup était gentil. Ça se voyait sur lui. Tout le monde le disait. Comme si personne n'avait conscience que la gentillesse, c'est seulement de l'hypocrisie polie. Ils échangèrent quelques banalités, vidant lentement leur flûte entre de longs silences.
« Désolé, » finit par avouer Jean-Loup. « Je suis moins bavard en vrai que par écrit. Je crois que je me suis un peu avancé et... »
Fallin s'avança et appuya un doigt sur ses lèvres.
Chut, ne dites rien. Ne parlons pas du passé. Parlons plutôt de l'avenir.
De l'avenir?
Vous voulez que je vous le prédise?
Jean-Loup, étonné, reposa sa flûte devant lui pendant que Fallin sortait une petite bourse de toile de son sac, puis, de la bourse, une dizaine de coquillages.
Ma mère m'a enseigné la divination. C'est une tradition malienne.
Elle lança sur la table, comme on jette des dés à jouer, les 10 coquillages. Tous possédaient la même forme, arrondie, n'excédant pas 3 cm de diamètre, coupée en leur milieu comme un abricot ouvert. La plupart étaient blancs et nacrés, mais d'autres possédaient d'infimes nuances de rose, de bleu, de vert. C'est dans ces nuances presque invisibles que Fallin semblait lire le destin. Elle voulut prendre la main de Jean-Loup, mais il l'esquiva.
« Je vois, » commença-t-elle, « un travail qui vous passionne de moins en moins, routine, ennui, responsabilité qui s'accumule, telle une pile de courriers que vous n'avez pas envie d'ouvrir. »«
Continuez, » fit-il un peu narquois. « Je vous préviens, il en faudra davantage pour m'impressionner. »
Fallin sourit. Donnez-moi votre main, Jean-Loup.
Non.
La prévision sera moins précise, alors.
Qui vous dit que j'ai envie qu'elle le soit?
Elle lui adressa un clin d'œil. Il trouva cela vulgaire. Elle vida son verre de champagne avant de continuer.
Je vois une femme aussi. Votre femme. Vous l'aimez. Une évidence.
Elle observait des coquillages collés aux teintes plus rouges.
« Vous êtes proche, très proche. N'avez jamais été aussi proche. Et pourtant... »
Elle marqua un silence. Jean-Loup se retint d'effectuer le geste qu'elle désirait, avancer sa main pour qu'elle la saisisse. Il attendit. Elle fixa un coquillage au reflet vert.
« Et pourtant, Jean-Loup... » Vous aimeriez que quelque chose se produise, que quelque chose tombe du ciel, quelque chose qui vous lie à votre passé, à tout ce que vous avez laissé derrière vous, qui vous relie à hier, sans rien remettre en cause de ce que vous vivez aujourd'hui. Un petit fil de rien du tout qui fera de vous un homme entier, pas seulement celui qui se sacrifie.
Ce fut au tour de Jean-Loup de vider sa flûte.
Il hésita même à applaudir. Bien joué. Sincèrement, bien joué.
Il joua du bout des doigts avec les coquillages, puis laissa sa main sur la table. Falline s'en saisit comme d'un pourboire princier.
Bien joué, Falline. Vous avez raison sur toute la ligne. Mais je préfère être franc avec vous. Je n'emprunterai pas ce pont. Je ne saisirai pas ce fil.
Les yeux de Falline se brouillèrent. Vexée? Plus Jean-Loup la regardait, et plus elle semblait différente de la jeune fille enceinte, inquiète et fragile, qui avait correspondu avec lui. Aucune trace de détresse. Aucun appel au secours dans ses gestes. Rien que de l'orgueil sur des talons perchés.
Je vais faire ce que je ne fais jamais. Je vais être franc, direct. Cruel, peut-être. Je dormirai seul ce soir. Je dormirai seul demain soir. Je ne tromperai pas ma femme. Je suis désolé si nos échanges par courrier ont été équivoques. Je n'en ai aucune envie. Cela n'a rien à voir avec vous, Falline.
Falline leva des yeux amusés vers lui, comme si toute trace de déception avait immédiatement disparu. Bravo, Jean-Loup. Bravo. Vous avez brillamment passé le premier test. Mais je ne suis pas Falline.
Pardon ?
La jeune fille serra doucement la main de Jean-Loup et la dirigea vers le coin du salon le plus proche du vieux port. Une fille attendait, plongée dans un livre. Elle portait une longue jupe western et une chemise blanche en dentelle. Pour seul bijou, un triangle noir ornait son cou. Ses cheveux étaient dissimulés dans un élégant foulard bandana couleur feuille morte. Je ne suis que son amie. Falline est timide. Elle n'a pas trop confiance en elle. Et surtout, elle avait peur que vous soyez un serial dragueur.
Elle lâcha la main de Jean-Loup, qui resta suspendu dans le vide, pointé vers la fille au foulard. Elle avait tourné le visage vers lui, le regardant par-dessus son épaule. Ce ne fut pas seulement la position de son visage qui rappela immanquablement à Jean-Loup la jeune fille à la perle, ni le foulard dissimulant ses cheveux.
Ce furent ses yeux. Ses yeux immenses et dévorants. Toute la misère du monde rassemblée dans un regard implorant.